Les petites balles, ça c'était un grand succès, non? Mais tu as arrêté.
Alors c'est la grande nouvelle, ça reprend cette année en 2026. Donc les petits balles, effectivement, c'est un projet qui a été créé en 2017, qu'on a monté avec Laurence Gaucher et Camille Léninger initialement, et qui était donc un moment où on avait envie de recréer des fêtes de village, mais plus culturelles, plus artistiques, avec plus de convivialité, qui puisse mêler toute la population, du petit enfant au centenaire, autour de balles populaires du monde, mais où il y avait également des animations pour les enfants, des spectacles de cirque ou de danse, etc. Et donc, on a arrêté pendant 2 ans parce que c'était très lourd à porter et qu'on avait des problèmes de ressources humaines à gérer et une économie du projet à solidifier avant de se relancer dans ce projet qui est très énergivore, mais tellement enthousiasmant. Et donc, cette année, on a pu, grâce à des jeunes là, qui sont arrivés sur le territoire, embaucher des personnes pour pouvoir faire renaître ce projet. Donc, les petits bals reviennent 3 fois cet été. Et ça sera à Montbrun et à Savoyan.
Est-ce que tu as le temps d'aller dans la nature, toi?
Alors, le temps, pour moi, ça se prend. Et effectivement, c'est une éducation que je me donne à moi-même de prendre du temps pour faire autre chose que contribuer à l'intérêt général, parce que je n'ai pas été éduquée à faire ça par mes parents. Donc oui, je prends du temps pour aller dans la nature, mais pas du tout suffisamment pour mon équilibre psychologique et pour mon bien-être physique. Mais j'y travaille tous les jours à sortir du bureau et de mon appartement, parce que je suis en appartement, et à pouvoir justement prendre du temps pour ne serait-ce que aller balader au parc ou dans la petite forêt de La Fayette juste au-dessus ou juste au-dessus du château. Mais c'est trop peu, effectivement.
Et comment trouves-tu les artistes, les musiciens, les artistes, les gens pour faire quelque chose? Comment tu les trouves?
Alors, souvent, ce sont des réseaux un peu organiques, c'est-à-dire que ça fait maintenant 25 ans que je suis entourée, que je suis dans le réseau du spectacle. Donc, au début que je suis arrivée ici, en Haute-Baronnie, j'avais tout mon réseau des artistes plutôt du Vaucluse, que je connaissais bien, et puis plein d'artistes que j'avais croisés sur des festivals ou sur d'autres manifestations ou sur des formations professionnelles. Enfin, c'est un réseau qui est assez naturel. Et au fur et à mesure des années, bien entendu, on reçoit des propositions. Donc, il y a à la fois des artistes que je vois quand je sors pour aller voir des spectacles, quand je vais dans d'autres festivals, chez d'autres partenaires. Il y a des artistes que je croise chez des copains artistes. Et puis, il y a des artistes dont je reçois les propositions par mail, tout simplement. Et ensuite, j'essaye de me déplacer pour aller voir ce qu'ils font. Donc, ça se fait assez naturellement. Et puis, bien sûr, il y a des conseils de copains ou de collègues qu'ils soient de la région ou d'ailleurs, qui me disent « Ah, ce spectacle, il est génial, il faut absolument que tu programmes, vas-y les yeux fermés, même si tu le vois pas, fais-moi confiance, ça va plaire où tu es, c'est super, voilà. »
Y a-t-il quelque chose que tu aimes spécialement, comme pour les artistes que tu cherches spécialement?
Alors, mon cahier des charges personnel, c'est d'avoir des artistes qui sont qui aiment les autres humains, qui donnent sincèrement quelque chose sur scène. Et ensuite, si je parle ensuite plutôt des esthétiques ou de la qualité artistique, moi je suis très sensible à beaucoup d'esthétiques différentes. Je pense que je vais avoir une appétence pour le cirque, les musiques du monde. Et les musiques qui fusionnent les musiques afro. Voilà, je suis très sensible aux musiques africaines aussi, donc à tout ce qui peut se faire aussi en mélange afro-caribéen, afro-jazz, ou des... Voilà, je suis assez sensible à ça, et à la chanson française, parce que j'ai été un peu baignée là-dedans assez longtemps.
Tu es confortable avec tout ce que tu fais? Tu es satisfait?
Confortable, je pense que... Bon, ça serait un mot qui serait un peu trop fort. Satisfaite, j'ai un petit problème avec la perfection. Alors, je sais pas si j'arrive à être satisfaite, mais si globalement, là, en arrivant au bout de 12 ans d'action ici, je suis quand même satisfaite d'avoir pu faire perdurer une dynamique et amener ma pierre à l'édifice de l'action culturelle en zone rurale. Je suis satisfaite qu'il y ait des gens qui se soient rencontrés, qui se seraient jamais croisés, des amoureux qui se sont rencontrés aussi, des liens qui se sont créés, des partenariats aussi entre des personnes qui ont monté des projets ensuite. Donc je suis contente du lien qui a été créé. Maintenant, au niveau de l'action au quotidien, ce n'est pas confortable. C'est pas le mot que j'emploierais. C'est quand même une lutte, on pourrait dire, quand même quotidienne pour survivre, pour réussir à mobiliser, que ce soit les publics comme les partenaires, les bénévoles. On est quand même dans une ère du bénévolat qui est en chute libre, où ce sont les bénévoles des années 80 qui ont 80 ans maintenant, qui sont toujours bénévoles, mais qui n'ont pas eu la relève dans les jeunes générations, pour tout un tas de raisons, hein. Bien entendu, je jette pas du tout la pierre à ceux qui ne peuvent s'investir bénévolement. Soit ils n'ont pas été éduqués non plus à ça par leurs parents, soit ils sont complètement pressurisés par leurs obligations sociétales, le travail, les enfants, les trucs à remplir sur Internet. Enfin, il y a beaucoup de charges invisibles qui se sont ajoutées dans la vie des gens. Et je crois que, voilà, deux parents qui travaillent, même si à 35 heures, eh ben, quand on a deux enfants et des choses à gérer du quotidien, bah, c'est difficile de trouver du temps pour aller aider une association et agrandir son cercle social. Si on en a déjà un qui nous satisfait, je comprends que les gens ne ressentent pas le besoin de l'agrandir et ne sortent pas forcément pour aller contribuer à l'intérêt général, parce qu'ils font déjà ce qu'ils peuvent pour survivre eux et éduquer leurs enfants du mieux qu'ils peuvent. Donc on se rend compte que dans le bénévolat, on a beaucoup de célibataires, ou des veufs, ou justement des retraités, voilà, des gens qui sont en disponibilité et avec l'envie de rencontrer d'autres personnes. Donc ça naît tout ça quand même d'un besoin. Et il ne faut pas l'oublier, je pense que voilà.
J'ai remarqué que vous avez souvent des prix libres. Explique-moi ça.
Alors en fait, depuis toujours, moi, dans les actions que je menais, et moi-même en tant qu'enfant, puisque mes parents n'avaient pas trop de moyens, je m'apercevais qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne participaient pas parce que les prix étaient trop chers. Et en même temps, je m'apercevais aussi autour de moi qu'il y avait des gens généreux et plus fortunés qui étaient heureux de contribuer. Et en réfléchissant, et bien sûr en voyant cet exemple-là, donc il y a 20 ou 25 ans, c'était un peu le début dans certaines villes ou dans des milieux un peu plus alternatifs, dans les milieux militants, on va dire, j'ai vu ce prix libre et je me suis intéressée très rapidement. Et donc, en voyant la zone rurale dans laquelle on était ici et le salaire moyen des gens et les difficultés économiques et sociales, il m'a semblé nécessaire de pouvoir offrir à tous ces lieux de lien. Et je trouvais que d'avoir un tarif fixe ne permettait pas aux personnes, donc bien sûr qui n'avaient pas l'argent, de venir, mais ne permettait pas non plus le questionnement de quelle est la valeur d'un spectacle, par exemple, par rapport à une boule de glace, une paire de chaussures. Dans l'ère de la surconsommation de produits inutiles, la culture est souvent considérée comme inutile par les gouvernements ou en tout cas par les économistes, enfin par ceux qui veulent que vendre des produits. Et moi, j'aimais bien dans le prix libre l'idée que les gens se questionnent, se disent « mais en fait, combien je suis prêt à donner ? Quels sont mes revenus par rapport à mon voisin ou par rapport à la personne qui est derrière moi dans la file ? Quels sont les besoins de cette association ? Qui sont les personnes qui œuvrent bénévolement toute l'année pour m'offrir ces temps de rencontre, d'ouverture ou d'enrichissement ? Et en fait, si j'ai un très bon salaire et que j'ai plein d'argent, pourquoi je ne pourrais pas participer plus que ce que j'aurais donné avec un tarif fixe pour que quelqu'un qui n'est pas dans ma situation puisse venir en donnant simplement quelques euros et puisse aussi bénéficier de ce temps convivial et de cette ouverture. Donc, pour moi, il était nécessaire de pouvoir offrir à tout le monde ces espaces, et donc le prix libre était le bon compromis entre un équilibre économique, parce que ça fonctionne très bien. Le prix libre, on met un prix conseillé. Donc, on a mis un prix conseillé au bout de quelques années, parce que les personnes ne savaient pas quoi donner. Et donc, en France, en plus, on a un tabou sur l'argent, je crois, qui est plus fort que dans d'autres pays. Et donc, les personnes étaient gênées. Mais combien? Il faut donner combien? Est-ce que ça va? Donc, on a mis un prix conseillé, qu'on appelle le prix du marché, c'est-à-dire quand on va voir un spectacle, c'est 10, 15 euros selon le spectacle, bon voilà, selon les conditions d'accueil. Et finalement, ben, il y a beaucoup de personnes qui vont, sur ce prix conseillé, donner par exemple 20 euros, et il y a et d'autres qui vont donner 5 euros. Et au final, on arrive à la moyenne du prix conseillé quasiment à tous les spectacles.
Qu'est-ce que ça nous donne, la culture?
Pour moi, ça nous donne de nouvelles visions des choses. Donc tout comme quand on discute ou qu'on fait des études et qu'on écoute quelqu'un qui a un autre point de vue que nous. Donc déjà, ça nous donne une ouverture, une respiration par rapport à nos propres réflexions ou nos propres pensées. Ensuite, ça nous donne du lien avec nos semblables, parce qu'on est des humains et on vit en société et que ça me paraît compliqué d'imaginer que chacun soit juste avec sa maison, sa voiture, sa télé et son plan d'épargne logement. Donc, il me semble que ça aide à faire société. Et puis, pour moi aussi, il y a une question de transmission. La culture, pour moi, c'est aussi le lien qui va rester entre les générations, qui va rester entre les traditions, sans mettre derrière ce mot du conservatisme ou du réactionnaire. Mais pour moi, les traditions, les belles traditions qui sont porteuses, justement, de valeurs sociales, elles se transmettent par la culture. Parce qu'elle appartient à tout le monde et parce qu'elle est partagée à tout le monde. Elle est partagée par tout le monde. Pour moi, la culture, c'est voilà. Principalement, je pense, c'est trois choses. J'y réfléchis pas souvent à cette question, même si ça revient souvent dans, dans tout ce que je lis. Mais voilà, il me semble que c'est vraiment ça. Et puis, bien sûr, la culture, à l'intérieur, il y a l'artistique. Et si j'axe simplement qu'est-ce qu'apporte l'artistique ? Pour moi, c'est aussi la beauté. Dans la beauté, il y a une sorte d'état de grâce dans lequel on peut se trouver quand on est face au beau, qu'il soit pictural, musical. Il y a quelque chose de l'ordre de la vibration. Et ça apporte, je pense, beaucoup de choses au cœur des gens sans qu'ils s'en aperçoivent forcément. C'est des moments de bonheur, en fait, et des moments de sérénité. No.